Ramuncho, deuxième partie, chapitre 12. L'hiver venait de finir. Ramuncho, qui avait dormi quelques heures d'un mauvais sommeil de fatigue, dans une petite chambre de la nouvelle maison de son ami Florentino, à Ourourville, s'éveillait maintenant, tandis que naissait le jour. La nuit, une nuit de tempête pourtant, une nuit trouble et noire tout à souhait, avait été désastreuse pour les contrebandiers. Du côté du cap Figuier, dans les rochers où ils venaient d'aborder par mer avec des ballots de soie, ils avaient été poursuivis à coups de fusil, obligés de jeter bas leur fardeau, perdant tout, les uns fuyant sur la montagne, d'autres se sauvant à la nage au milieu des brisants, pour gagner la rive française, dans l'épouvante des prisons de Saint-Sébastien. Vers 2 heures du matin, épuisé, trempé et à demi noyé, il était venu frapper à la porte de cette maison isolée, demander au débonnaire Florentino secours et asile. Et à son réveil, après tout le fracas nocturne de la tempête d'équinoxe, des pluies de déluge, des branches gémissantes, tordues et brisées, il percevait d'abord qu'un grand silence était fait. Prêtant l'oreille, il n'entendait plus le souffle immense du vent d'ouest, plus le remuement de toutes ces choses tourmentées dans les ténèbres. Non, rien qu'un bruit lointain, régulier, puissant, continuel et formidable, le grondement des eaux dans le fond de ce golfe de Biscaye, qui, depuis les origines, est sans trêve mauvais et troublé. Un grondement rythmé, comme serait la monstrueuse respiration du sommeil de la mer, une suite de coups profonds, qui semblaient les heurts d'un bélier de muraille, continuée chaque fois par une musique de déferlement sur les grèves. Mais l'air, les arbres, les choses d'alentour se tenaient immobiles. La tempête avait fini, sans cause raisonnable, comme elle avait commencé, et la mer seule en prolongeait la plainte. Pour regarder ce pays, cette côte d'Espagne qui ne reverrait peut-être plus, puisque le départ était si proche, il ouvrit sa fenêtre sur le vide encore pâle, sur la virginité de l'aube désolée. Une lueur grise émanant d'un ciel gris. Partout la même immobilité fatiguée et figée, avec des indécisions d'aspect tenant encore de la nuit et du rêve. Un ciel opaque, qui avait l'air consistant, et fait de petites couches horizontales accumulées, comme si l'on avait peint en superposant des pâtes de couleur morte. Et là-dessous, des montagnes d'un brun noir. Puis, Fontarabie en silhouette morose, son clocher séculaire paraissant plus noir et usé par ses années. À cette heure si matinale et si fraîchement mystérieuse, où les yeux des hommes, pour la plupart, ne sont pas encore ouverts, il semblait qu'on surprit les choses dans leur navrant colloque de lassitude et de mort, se racontant à la pointe de l'aube tout ce qu'elles taisent pour ne pas faire peur quand le jour est levé. « À quoi bon avoir résisté à la tempête de cette nuit ?» disait le vieux clocher triste et là, debout au fond du lointain. « À quoi bon, puisqu'il en arrivera d'autres, éternellement d'autres, d'autres tempêtes et d'autres équinoxes, et que je finirai tout de même par passer, moi, que les hommes avaient élevé comme un signal de prière devant demeurer là pour d'incalculables durées. Je ne suis déjà qu'un fantôme, venu d'un autre temps. Je continue de sonner des cérémonies et d'illusoires fêtes. Mais les hommes cesseront bientôt de s'en leurrer. Je sonne aussi des glas. J'en ai tant sonné, des glas. Pour des milliers de morts dont personne ne se souvient plus. Et je reste là, inutile, sous l'effort presque éternel de tous ces vents d'ouest qui soufflent de la mer. Au pied du clocher, l'église, dessinée là en terne grisaille, avec un air de vétusté et d'abandon. Confessait aussi qu'elle était vide, qu'elle était vaine, peuplée seulement de pauvres images de bois ou de pierre, de mythes sans entendement, sans pouvoir et sans pitié. Et toutes les maisons, depuis des siècles pieusement groupées à son entour, avouaient que sa protection était inefficace contre la mort, qu'elle était mensongère et dérisoire. Et surtout, les nuées. Les nuées, les montagnes couvraient de leur immense attestation muette ce que la vieille ville murmurait en dessous. Elle confirmait en silence les vérités sombres, le ciel vide, comme les églises, servant à des fantasmagories de hasard, et les temps ininterrompus roulant leurs flots, où les myriades d'existences, comme de négligeables riens, sont l'une après l'autre entraînées et noyées. Un glas commença de tinter dans ce lointain que Raymond regardait blanchir. Très lentement, par coups espacés, le vieux clocher donnait de la voix, une fois de plus, pour la fin d'une vie. Quelqu'un râlait de l'autre côté de la frontière. Quelque âme espagnole était là-bas, qui s'anéantissait au pâle matin, sous les épaisseurs de ces nuages emprisonnants, et l'on avait comme la notion précise que cette âme-là suivrait tout simplement son corps dans la terre qui décompose. Et Raymond contemplait et écoutait, à la petite fenêtre de cette maisonnette basque, qui avant lui n'avait abrité que des générations de simples et de confiants, accoudé sur la large pierre d'appui qui s'était usée au frottement humain, écartant du bras le vieux contrevent peint en verre, il promenait les yeux sur le morne déploiement de ce coin du monde qui avait été le sien et qu'il allait pour jamais quitter. Ces révélations que faisaient les choses, son esprit inculte les entendait pour la première fois, et il y prêtait une attention épouvantée. Tout un nouveau travail d'incroyance s'accomplissait soudain dans son âme héréditairement préparée aux doutes et aux angoisses. Toute une vision lui venait, subite et qui semblait définitive, du néant des religions, de l'inexistence des divinités que les hommes prient. Et alors, puisqu'il n'y avait rien, quelle naïveté de trembler encore devant la Vierge Blanche, protectrice chimérique de ces couvents où les filles sont enfermées. La pauvre cloche d'agonie, qui s'épuisait à tinter là-bas, si puérilement pour appeler d'inutiles prières, s'arrêta enfin, et sous le ciel fermé, la respiration des grandes eaux s'entendit seule au loin, dans l'universel silence. Mais les choses continuèrent, à l'aube incertaine, leur dialogue sans parole, rien nulle part. Rien dans les vieilles églises si longuement vénérées, rien dans le ciel où s'amassent les nuages et les brumes. Mais toujours la fuite des temps, le recommencement épuisant et éternel des êtres, et toujours, et tout de suite, la vieillesse, la mort, l'émiettement, la cendre. C'est cela qu'elle disait dans le blême de mi-jour, les choses si mornes et si fatiguées. Et Raymond, qui avait bien entendu, se prit en pitié d'avoir hésité si longtemps pour des raisons imaginaires. À lui-même, il se jura, avec une plus âpre désespérance, que, à partir de ce matin, il était décidé qu'il le ferait au risque de tout, que rien ne l'arrêterait plus.